Bonjour et bienvenue, nous sommes le lundi 22 décembre 2025 et aujourd'hui on s'attaque à un sujet immense.
Immense et délicat.
Voilà, délicat, aussi vieux que l'humanité et malheureusement toujours d'actualité. La guerre, mais vue par la philosophie.
Oui.
C'est un sujet qui met mal à l'aise parce que dire « je suis contre la guerre », ça peut sonner un peu creux, quoi.
Un peu simpliste, oui. Surtout face à ceux qui subissent une violence extrême et qui, ben, n'ont pas d'autre choix que de se battre.
Exactement.
Tout à fait, c'est un équilibre très difficile. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur une réflexion de Julien Lecomte qui est passionnante.
D'accord.
Ce qu'il fait, c'est qu'il croise plusieurs penseurs pour explorer la moralité de la guerre. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les arguments.
Comprendre les mécanismes.
Comprendre les mécanismes, oui.
Et les raisonnements qu'on utilise pour la justifier.
Et justement, la première justification qu'on entend partout, c'est celle de la guerre juste.
Ah oui.
La cause noble. On a tous ces images en tête. Mais est-ce que ça tient vraiment la route, cette idée? Allez, on va creuser ça un peu.
Bah, dès le départ, la source nous alerte. Cette idée de guerre noble, c'est avant tout un outil de propagande.
Un outil de communication?
C'est ça. Le premier réflexe d'un État qui entre en guerre, c'est toujours de la présenter comme défensive.
Toujours. On ne dit jamais « on part attaquer pour piller des ressources ».
Jamais.
Non. Le discours, c'est « on est forcé de réagir, on doit se défendre, on défend nos valeurs ». L'agresseur se présente toujours en victime. C'est un mécanisme quasi universel. Et cette narration, elle s'appuie sur un imaginaire culturel, mais extrêmement puissant.
Qu'on nous sert depuis l'enfance.
Exactement. L'image du guerrier héroïque, viril, vertueux.
Le super-héros moderne.
Voilà. Ça vient des mythes anciens et ça va jusqu'au super-héros. C'est une figure qui rend le sacrifice acceptable, voire même désirable.
Et c'est une construction si forte qu'elle finit par masquer la réalité crue et sale de la guerre.
Tout à fait.
Je pense à cette phrase du Dalai Lama qui est citée, c'est une vraie douche froide, il dit « La guerre n'est ni glamour ni attirante ». Elle est monstrueuse. Sa nature même est celle de la tragédie et de la souffrance. Ça remet les pendules à l'heure.
Oui, ça nous ramène brutalement au réel.
D'accord, donc on voit que le discours est biaisé. Mais alors, comment on fait pour se forger une opinion solide? C'est là que la philo peut nous aider.
Oui, et la source propose deux grandes approches, deux grilles de lecture. La première, c'est celle de Kant, le déontologisme.
La morale du devoir.
C'est ça. Pour faire simple, on ne juge pas une action sur ses conséquences, mais sur l'action elle-même. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, en soi?
D'accord, et l'outil pour ça, c'est son fameux impératif catégorique. L'idée, c'est de se demander, est-ce que je peux vouloir que ma règle d'action devienne une loi universelle?
C'est le cœur de sa pensée, oui. Et si on l'applique à la guerre?
Ah, on ne peut pas vouloir que la guerre devienne la manière universelle de régler les conflits.
Évidemment non. Ce serait le chaos permanent. Donc déjà, premier test, la guerre est disqualifiée.
Logique.
Mais il va plus loin avec un autre principe. Il dit qu'on doit toujours traiter l'humanité comme une fin, et jamais seulement comme un moyen.
Et la guerre, par définition?
C'est l'inverse. C'est l'utilisation d'êtres humains comme de la chair à canon, comme des moyens pour atteindre un objectif. On sacrifie des vies.
C'est la négation de la dignité humaine.
Exactement.
Donc pour Kant, la discussion s'arrête là. Peu importe la cause, l'acte de tuer est immoral. Point. C'est d'une clarté absolue.
C'est une position très forte.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu intenable? Je veux dire, face à un tyran qui prépare un génocide, refuser la violence par principe, ce n'est pas une forme de complicité?
C'est toute la question. Et c'est là qu'intervient la deuxième approche.
Le conséquentialisme?
Le conséquentialisme, oui. Et notamment l'utilitarisme de John Stuart Mill. Et là, on change complètement de regard.
On ne regarde plus l'acte.
Non, on regarde les conséquences. Une action est bonne si elle maximise le bien-être et minimise la souffrance pour le plus grand nombre.
Ah, et là, de prime abord, la guerre, c'est encore pire.
Ah bah oui.
Les conséquences sont quasi toujours catastrophiques. Morts, blessés, réfugiés. Le calcul est vite fait.
En effet, a priori, c'est un désastre utilitariste. La somme des maux est astronomique. Mais...
Il y a un mais.
Il y a un mais. C'est votre question. Mill a théorisé le principe de non-nuisance. La seule raison légitime d'user de la force contre quelqu'un, c'est pour l'empêcher de nuire à d'autres.
C'est la justification de l'ultime recours. La violence n'est acceptable que pour empêcher une violence encore plus grande.
Exactement. C'est une exception très, très stricte. La toute dernière option quand tout le reste a échoué. La barre est placée extraordinairement haut.
Ce qui est fascinant, c'est que les deux philosophies, en partant d'endroits opposés, arrivent à la même conclusion. La guerre, c'est une abomination.
Oui, le point de départ est différent, mais le résultat est le même.
Il y a cette citation de Jean Giono qui résume ça parfaitement. Il dit que la guerre est imbécile et inutile. C'est la destruction, ça c'est Kant. Et il ajoute « La guerre est immédiatement la perte totale de votre liberté », ça c'est Mill. On a l'impression que la messe est dite, non ?
On pourrait le croire, mais le paradoxe, et c'est là que ça devient pervers,
oui.
C'est que presque tous les discours qui justifient une guerre empruntent ironiquement cette gogibe de Mill.
C'est vrai.
Personne ne dit « on part en guerre parce que tuer, c'est bien ». On dit toujours « c'est terrible, mais c'est nécessaire pour éviter un mal encore plus grand ». On prend l'exception et on en fait la règle.
Et c'est là qu'on bascule dans la manipulation. Comment on torse cette logique de l'ultime recours ? Quels sont les mécanismes ?
La source en identifie plusieurs. Le premier, c'est de présenter la guerre comme une fatalité.
Inévitable. Le fameux « c'est eux ou nous ».
C'est ça. On construit l'image d'un ennemi monolithique, irrationnel, qui ne comprend que la force. Le dialogue, c'est de la faiblesse.
Et ça devient une prophétie autoréalisatrice. À force de se préparer au pire, on le provoque.
Totalement. Deuxième stratégie, présenter la guerre comme le seul moyen efficace. Et là, Umberto Eco est brillant.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il explique que la guerre moderne est devenue un outil terriblement inefficace. Autrefois, on gagnait un territoire, on anéantissait une armée.
C'était clair.
Voilà. Aujourd'hui, les conflits s'enlisent, déstabilisent des régions entières, créent des crises sans fin. Même d'un point de vue pragmatique, la guerre ne marche plus.
Un autre levier, le plus évident, c'est la peur.
C'est le carburant. La source compare ça au débat sur les armes. Le monde est dangereux, donc il faut s'armer, ce qui rend le monde encore plus dangereux.
Le cercle vicieux.
Appliqué aux nations, c'est « nos voisins s'arment, donc nous devons nous surarmer ». Et cette peur, elle a besoin d'un visage, d'un ennemi.
Et qui dit ennemi, dit identité. La construction du « nous » contre le « eux ».
C'est le mécanisme social le plus puissant. Il y a une phrase de René Girard dans La Source qui est terrible.
Laquelle ?
Le meilleur moyen de se faire des amis, c'est d'adopter les ennemis des autres.
C'est glaçant.
L'unité d'un groupe se cimente plus facilement sur la haine d'un ennemi commun, d'un bouc émissaire, que sur des valeurs positives.
Et le dernier mécanisme, plus subtil, c'est la réécriture de l'histoire.
Oui, fondamental. L'exemple donné, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Le récit officiel, c'est celui des victoires militaires, de l'armistice.
Ce qu'on apprend à l'école.
Mais on oublie un autre facteur décisif. La vague de mutineries, de grèves, de révolutions en Europe. Les peuples, les soldats, les ouvriers ont juste dit stop.
Ils se sont retournés contre leurs propres élites.
Exactement. Donc on nous vend une histoire de victoire militaire alors que la paix est aussi venue d'un ras-le-bol général.
C'est une leçon qu'on prend soin de ne pas trop renseigner.
Parce que ça montre que la fin de la guerre peut aussi venir de la désobéissance. Pas très glorieux pour les gouvernements.
Quand on met tout ça bout à bout, la question qui tue, c'est « Ok, à qui profite le crime ?» Il y a cette citation de Paul Valéry, « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. »
C'est d'une justesse implacable.
Et ça fait écho à cette question du groupe System of a Down. « Why do they always send the poor ?» Pourquoi ce sont toujours les pauvres qu'on envoie au front ?
Ce ne sont jamais les dirigeants politiques ou les PDG de l'industrie de l'armement qui sont dans les tranchées. La guerre est une affaire d'intérêt pour une minorité, payée avec le sang de la majorité.
Et il y a une citation dans nos notes qui résume tout ça de la manière la plus cynique et effrayante possible. Elle vient de Hermann Göring.
Le dignitaire nazi ?
Oui, pendant son procès à Nuremberg, un journaliste lui demande comment on fait pour convaincre un peuple d'aller à la guerre. Et la réponse de Göring est...
terrifiante. Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit, en substance, « Le peuple ne veut pas la guerre, mais ce sont les chefs qui déterminent la politique. Pour entraîner le peuple, c'est simple. Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués et de dénoncer les pacifistes pour leur manque de patriotisme. Cela marche dans n'importe quel pays. »
C'est terrible. C'est d'un cynisme absolu. Et ce qui est effrayant, c'est que ça marche.
Il a tout résumé.
Il a résumé en trois phrases la création de la menace. L'appel au patriotisme et la diabolisation de ceux qui appellent à la paix, c'est le mode d'emploi de la propagande.
Alors, si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce qu'on en retient ? D'un côté, on a des outils philosophiques, Kant, Mill, qui nous montrent que la guerre est une faillite morale.
Une faillite morale et humaine. Et de l'autre, on a une machine de propagande qui s'empare de la seule justification possible, l'ultime recours, et qui la tord dans tous les sens.
En manipulant la peur, l'identité, l'histoire.
Exactement. Pour faire passer l'exception pour une nécessité.
Du coup, pour nous, en tant que citoyens, le véritable enjeu, c'est de garder une distance critique, de ne jamais prendre pour argent comptant les discours qui présentent la guerre comme inévitable.
Il faut s'informer et croiser les sources.
Et toujours se poser la question, est-ce qu'on est vraiment face à l'ultime recours? Est-ce que toutes les autres options, la diplomatie, la négociation, ont été réellement explorées?
Sincèrement et jusqu'au bout.
Pour finir, j'aimerais revenir sur une chose. Se positionner contre la violence, ce n'est pas de la naïveté ou de la passivité.
Non, c'est tout le contraire.
C'est une position exigeante. C'est se positionner pour la recherche de solutions complexes, pour la difficulté du dialogue contre la simplicité de la destruction.
Et ça nous laisse avec une question finale, qui est peut-être la plus importante. Si la justification d'une guerre repose presque toujours sur ce plus grand mal à éviter, comment peut-on, en tant que citoyen bombardé d'infos et de désinformations, évaluer la réalité de cette menace? Comment faire la part des choses entre une alerte légitime et une rhétorique de la peur conçue pour nous manipuler? Ça pose une question vertigineuse sur notre rapport à la vérité en temps de crise.